Bonsoir. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce soir? On a forcé qui pour qu'il vienne ici ce soir? Personne. Tu as entendu la voix de qui te parlait avant de sortir de la maison? La voix de... Alléluia. Maintenant, je voudrais que tu présentes ton cœur à Dieu et que tu dises: Seigneur, j'ai répondu à ton invitation. Je n'ai pas répondu à l'invitation d'un homme. Dis: Seigneur, merci. Parce que je suis un privilégié. Tu as voulu que je sois dans ta présence ce soir. Dis: Seigneur, merci, parce que ce n'est pas en vain que je suis là. Seigneur, si tu as permis que j'entende ta voix, me convoquer dans ce lieu d'adoration, c'est parce que tu as prévu pour moi quelque chose. Et je suis venu pour recevoir ce que tu as préparé pour moi. Bien-aimé, je veux que tu présentes ton cœur à Dieu. Ce n'est pas un problème d'intelligence. On n'est pas là tous les soirs pour remplir tes connaissances, ton intelligence en connaissance, en ce qui concerne la parole de Dieu. Dieu vient parler à ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Je refuse que mon intelligence prenne la place que toi tu voudrais toucher en ce qui me concerne. Seigneur, mon cœur, je le dispose afin que tu me parles à moi. Seigneur, je veux être touché au plus profond de moi. Je veux sentir ta voix me parler. Merci pour le message que tu as prévu pour moi. Et merci, ô Éternel, parce que je crois que je ne veux pas l'écouter comme un auditeur oublieux, mais je vais l'écouter en me laissant, ô Éternel, en m'abandonnant à toi, afin que tu fasses le travail que tu veux faire dans ma vie ce soir au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je crois que j'ai été enfermé pendant longtemps à cause des échecs. Seigneur, certainement, Satan m'a placé dans une prison précise. Mais ce soir, je crois en ma délivrance au nom de Jésus. Je crois que tu me délivres de la prison dans laquelle j'ai été enfermé au nom de Jésus. Dis à Dieu merci parce que ce soir encore, je reçois une solution en ce qui concerne ma vie. Ce soir encore, je prends une clé, Seigneur, afin que les portes fermées devant moi s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'accorderas la grâce de la saisie. Je refuse d'être distrait. Je refuse que quelque chose, ô Éternel, vienne à m'empêcher de saisir ce que tu as prévu pour moi. Dis, Seigneur, je brise toute forme d'incrédulité dans mon cœur. Que ce qui aura tendance à me faire croire que ce n'est pas à moi que tu parles, tombe maintenant au nom de Jésus. Que tout autre esprit qui essaiera de me convaincre du contraire de ce que tu vas m'enseigner soit chassé maintenant de mon esprit et de ces lieux au nom de Jésus. Demande à Dieu de prendre la place qui est la sienne dans ton cœur. Dis, Seigneur, je t'établis comme roi de mon cœur maintenant. Je t'établis comme roi de ma vie maintenant. Je t'établis comme roi en ces lieux maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que ce qui n'est pas de toi, prends la clé des champs et libère ces lieux au nom de Jésus. Je consacre ces lieux à ton autorité. Et je déclare que s'il y a quoi que ce soit de caché qui a une mission précise à accomplir ici ce soir, qui n'a rien à voir avec ta gloire, que cela soit maintenant détruit au nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur, je me connecte à toi. Seigneur, je veux davantage rester connecté à toi. Et je sais que tu vas me parler. Merci pour ton œuvre que tu accomplis dans mon cœur. Merci pour ton œuvre que tu accomplis dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous. Le thème de ce soir, c'est « Accepte la responsabilité de tes échecs ». Accepte la responsabilité de tes échecs. Il s'agit d'une injonction. Le Seigneur te demande d'accepter. Quand on parle d'accepter, ça veut dire que quelque part il y a le refus. N'est-ce pas? Quand on refuse d'accepter, ce qu'on fait, c'est qu'on refuse. Mais le Seigneur voudrait que tu acceptes. Nous allons d'abord nous poser la question de savoir qu'est-ce que la responsabilité. Selon la définition que nous donne le dictionnaire, la responsabilité est le fait d'être responsable. C'est-à-dire la capacité d'assumer ses actes. La responsabilité, c'est la possibilité d'agir en connaissance de cause. Donc, être responsable, c'est savoir répondre de ses actes dans des situations précises. C'est être capable d'assumer les conséquences positives ou négatives de ses choix. J'ai pris une décision. À la fin, il y a des conséquences qui sont soit positives, soit négatives. Je les assume. J'accepte, je réponds de ce qui est arrivé. Je n'essaye pas de jeter le tort sur quelqu'un ou sur les autres. La remarque qu'on fait généralement, c'est que les hommes ont tendance à fuir leurs responsabilités. C'est dans la nature de l'homme. Très souvent, on ne veut pas accepter que c'est nous qui sommes à l'origine de telle ou telle chose qui s'est passée. Et surtout quand les choses n'ont pas marché comme on voulait. Du coup, ça ne dépend pas de nous, ça dépend des autres. Quand on n'a pas atteint le but voulu, on refuse d'assumer la responsabilité de ce qui est arrivé et on cherche à rendre un tiers responsable de ce qui est arrivé. Et du coup, on joue la victime. Vous avez déjà vu un coupable pleurer? Hein? Vous n'avez pas encore vu un coupable pleurer? Il pleure! Il pleure! Pourtant, c'est lui qui est coupable. Il pleure, il voudrait attirer la compassion de tout le monde sur lui. Et lui, c'est que c'est les autres qui ont tort. Lui, il n'a pas tort. Quand on vous explique la situation, vous entrez dans les détails, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est lui le coupable. Mais comme il refuse d'assumer la responsabilité de ses actes, il est sûr que par les pleurs, les gens auront compassion de lui. Et du coup, on va essayer de mettre la responsabilité sur d'autres personnes. Bien-aimé, c'est ce qui a caractérisé le premier homme dans la Bible, c'est-à-dire Adam. Adam a été irresponsable. Adam a péché, mais il est tombé dans ce qu'on appelle le déni. C'est-à-dire qu'il a refusé de voir ses erreurs et de les réparer conformément à ce que le Seigneur attendait de lui. Adam et Ève sont placés dans le jardin. Et quand il leur arrive de désobéir au Seigneur, ils fuient. Ils fuient la face de Dieu. Ils s'éloignent de la présence de Dieu, refusant ainsi d'assumer leur rébellion. Ils ont été rebelles vis-à-vis de Dieu. Regardons un peu l'attitude de Adam. Quand le Seigneur commence à le chercher, Adam, où es-tu? Adam ne dit pas, me voici. Adam n'a pas répondu à la question que Dieu lui a posée. Adam dit, la femme que tu as placée à côté de moi a cueilli le fruit, elle a mangé, elle a donné ma part. Dieu n'a pas dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Dieu a dit, Adam, où es-tu? C'est la même chose. Quand vous attrapez le bandit, souvent la main dans le sac, tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il ne vous répond pas. Il ne répond pas à la question que vous venez de lui poser. Il répond à une autre question. En réalité, c'est parce qu'il est coupable de ce qu'il est en train de faire. Il se sent coupable. Adam dit donc, c'est la femme que tu as placée à côté de moi, qui m'a donné le fruit et elle a mangé, moi aussi j'ai mangé. Et quand Ève sent qu'on a déposé sur elle la responsabilité, elle dit que non, c'est pas moi, c'est le serpent. Ça devient comme une chaîne, chacun essayant d'accuser l'autre, chacun fuyant sa responsabilité pour l'imposer à quelqu'un d'autre. C'est la même chose avec nos enfants à la maison, n'est-ce pas? Qui a cassé le verre? Oh, c'est Nayel qui a dit que je lui donne de l'eau dans le verre. Et il n'a pas dit c'est moi qui ai cassé le verre. Il a commencé à citer son frère qui lui a dit de lui donner de l'eau dans le verre. C'est une attitude normale chez tous les hommes. Mais en réalité, ce n'est pas bien. Ça veut dire que Dieu a déjà mis en nous. Non, ce n'est pas Dieu, en tout cas. C'est Satan qui nous amène à fuir devant nos responsabilités. Dieu avait défendu à Adam de manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et ce n'est pas au serpent que Dieu avait dit de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre. C'est à Adam et Ève. Maintenant, je me pose la question de savoir où est la responsabilité du serpent là-dedans. Est-ce que c'est au serpent que Dieu avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre? Non. C'est à Adam et Ève que Dieu avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre. Quand il leur arrive de désobéir, du coup, la personne qu'on est en train d'indexer comme responsable de la situation, c'est le serpent. Dieu avait donné un ordre formel à Adam et Ève et non au serpent. Donc ce n'est pas la faute du serpent ce qui est arrivé. C'est la faute de Adam et de Ève parce que c'est à eux qu'on a donné l'ordre de ne pas manger le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Plusieurs chrétiens dans leurs échecs ressemblent à Adam. Il faut absolument chercher le coupable. Il faut trouver le coupable. Il faut trouver le véritable responsable de la situation. On a été trompé par un tel. C'est elle, mais c'est jamais nous. Quand le bandit justifie son banditisme parce que il a été abandonné par ses parents dès son jeune âge, on a tendance à vouloir lui donner raison. En réalité, c'est lui qui est coupable du banditisme. Est-ce qu'on va aller accuser la tante de l'avoir entraîné dans le banditisme? Que dit d'un autre enfant qui, dans la même situation, a décidé de se battre autrement pour survivre? Ça veut dire qu'il n'a pas raison d'accuser sa tante s'il est devenu bandit. Donc, la faute à qui? Par rapport à tout ce qui nous arrive, la faute à qui? Dieu nous dit, la faute c'est à nous-mêmes. La faute à moi-même et à personne d'autre. Et surtout pas à Dieu. Parce que souvent les gens trouvent même l'occasion d'accuser Dieu, d'être responsable de leur situation. Quand nous essuyons plusieurs défaites, à qui est-ce que nous attribuons la responsabilité des échecs par lesquels nous passons? Adam entre dans le déni parce qu'il ne veut pas admettre sa désobéissance. En réalité, sa désobéissance était liée à sa convoitise. Il y a toujours quelque chose de caché. Il y a toujours quelque chose de caché au fond de nous qui nous pousse à agir. Même si c'est sous l'impulsion de quelqu'un que nous sommes en train de pécher, même si c'est sous l'impulsion de quelqu'un que nous avons essuyé un échec, en réalité, il y avait d'abord une motivation propre à nous. Et la personne est venue un peu comme le stimulant ou bien comme le levain qui a fait lever la pâte. La pâte était déjà là. Au fond de nous, il y avait déjà cette disposition à mal agir et l'autre personne est venue seulement fermenter. Nous avons agi et après nous trouvons qu'il faut accuser la personne. Dieu n'y est pour rien dans nos échecs. Il est question que nous acceptions la responsabilité de nos échecs. Dans 1 Roi 18, Achab, roi d'Israël, il accuse Élie d'être celui qui jette le trouble en Israël. Alors que c'est lui qui ouvre la porte à l'ennemi en Israël en épousant une païenne qui est venue avec toutes les idoles qu'elle adorait dans son pays. Et le Seigneur se met en colère contre son peuple qui s'est habitué à l'idolâtrie et plusieurs années de sécheresse sont proclamées. Le roi, au lieu de voir sa responsabilité, parce que c'est lui qui ouvre la porte à l'ennemi dans le pays, il trouve que c'est Élie le prophète qui est le problème. Parce que Élie avait prophétisé qu'il y aura sécheresse pendant 3 ans et demi. La faute n'est pas à Élie, la faute est au roi. La plupart du temps, nous jetons même la faute sur Dieu. Nous allons lire Ruth 1. Ruth 1, d'abord 1 à 7. Ensuite, 19 à 22. Ruth 1, verset 1 à 7. D'abord. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Nous continuons verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elle arrivait à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Je ne vais pas parler de ton Dieu sera mon Dieu. C'est quelque chose qu'on chante tout le temps. Ce qui attire mon attention dans ce texte, c'est que premièrement, on dit que la famille habitait Bethléem, c'est-à-dire la famille d'Élimélec. Lui, sa femme Naomi et ses deux fils, Machlon et Kiljon. Bethléem veut dire maison du pain. Et quand on entend maison du pain, ça veut dire maison de l'abondance. On dit qu'il y a eu une famine dans le pays. Élimélec a décidé de déporter sa famille pour le pays de Moab. Parce que certainement, il ne supportait plus la famine. Quand ils arrivent au pays de Moab, on dit qu'Élimélec mourut, laissant sa femme et ses deux fils. Ces deux-là prirent des femmes. Après quelque temps, eux aussi, ils meurent, laissant donc leur mère avec les deux belles-filles. Quand elle se rend compte qu'elle n'a plus rien à gagner au pays de Moab, elle décide de rentrer à Bethléem. Une fois à Bethléem, les gens la voient arriver et on dit, est-ce là Naomi? Elle dit non, ne m'appelez plus Naomi. Parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et me voici qui retourne les mains vides. L'abondance dont elle parle, c'est qu'elle avait quand même une famille équilibrée, c'est-à-dire son mari et ses deux fils. Là voilà qui rentre plutôt avec Ruth. Non, l'autre belle fille même a décidé de rentrer chez elle. Qui est responsable de la situation de Naomi selon elle? Qui est responsable de la situation de Naomi? Selon elle, j'ai bien dit selon elle. Voilà, elle accuse le Tout-Puissant. Du coup, c'est Dieu qui est responsable de la situation dans laquelle je me trouve. Maintenant, quand nous observons bien, posons-nous quelques questions. Qui avait demandé à Élimélec de partir de Bethléem pour le pays de Moab? Personne. Pourquoi est-ce que c'était la seule famille qui partait de Bethléem pour s'installer ailleurs pendant que le pain manquait en Israël? On ne nous a pas dit dans le texte que plusieurs familles se sont déportées de Bethléem pour Moab. Mais il s'agit uniquement de la famille de Naomi qui décide de partir à la recherche du pain. Est-ce qu'ils ont consulté le Seigneur avant de prendre cette décision? Non, mais maintenant c'est Dieu qui est le coupable, n'est-ce pas? Autre chose, pourquoi est-ce que toutes les familles de Bethléem n'ont pas quitté le pays pour aller ailleurs chercher du pain? Quand on nous raconte l'histoire vers la fin, on nous dit que quand elle est revenue, les gens l'ont reconnue, n'est-ce pas? Après 10 ans, quand elle revient, elle retrouve les gens qu'elle a laissés. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas morts à cause de la famine? Dieu les a gardés, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en réalité, celui qui est responsable de la situation de Naomi, ce n'est pas le Tout-Puissant. C'est elle-même et son mari qui ont été incapables de savoir quels sont les plans de Dieu pour leur famille et de prendre la décision qui convient dans cette situation. Ce n'était pas du tout le plan de Dieu pour sa famille. Maintenant, c'est les accusations que Dieu va recevoir. Dieu va recevoir une tonne d'accusations parce qu'on est parti en étant dans l'abondance et on revient les mains vides. Bethléem, qui est la maison du pain, a fait comment pour que toi tu décides d'aller dans un pays où il n'y a pas du tout de pain? Quelle était la garantie que Naomi devait trouver du pain là où elle est partie? Aucune garantie, mais elle est quand même partie. Et les conséquences s'en sont suivies, n'est-ce pas? Maintenant, il faut accuser Dieu. Elle a perdu le mari, elle a perdu les deux fils. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi, son nom signifie douceur. Naomi veut dire douceur. Quand elle revient, Naomi veut changer d'identité. Naomi veut revêtir un autre nom qui correspond à la situation dans laquelle elle se trouve. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi désormais Mara. parce que désormais je suis rempli d'amertume. C'est elle-même qui est responsable de la situation. Et devant tous les échecs, il est question qu'elle change de nom. Il est question qu'elle change d'identité et qu'elle devienne amertume au lieu de douceur qu'elle était au départ. Et je nous pose la question, combien de personnes comme elle, dans la maison de Dieu, ont déjà compromis leur avenir à cause des échecs multiples? Combien parmi nous n'ont pas changé notre nom, même sans le dire ouvertement aux gens? Combien de personnes n'ont pas conclu à un moment donné que ça ne vaut plus la peine? En réalité, mon nom désormais c'est échec, parce que je vais d'échec en échec. Mon nom désormais c'est célibat, parce que je suis déjà installé dans un célibat endurci. Mon nom désormais c'est stérilité, parce que depuis que je suis marié, je n'enfante pas. Beaucoup de personnes ont changé leur nom. Et pendant que c'est en train d'agir dans leur vie, parce que dans leur tête, ils ont changé de nom, ils accusent Dieu. Ce n'est pas Dieu le responsable de ta situation, c'est toi-même. Amen. Dis amen. Voilà, dis même fort parce que ça te donne de changer les données tout à l'heure. Amen. Combien sont même tombés dans l'incrédulité vis-à-vis des promesses de l'Éternel? Parce qu'ils ont attendu et s'attardaient à venir. Ils sont quand même là tous les jours. Mais le cœur est déjà dur. Le cœur est incrédule. Est-ce que ma situation s'y peut encore changer un jour? Est-ce que c'est possible que je sorte de là? J'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, j'ai même demandé le soutien des frères. On a prié pour moi, mais rien ne change. Et du coup, le cœur est incrédule. Dieu sait quand ta bénédiction arrive. Ça ne dépend pas de toutes les prières que les gens ont fait jusqu'ici. Ça ne dépend pas de tous les mois de jeûne que tu as déjà pris jusqu'ici. Ça dépend de ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Amen. Combien ne sont là que parce qu'il faut être? Si je ne pars pas à l'église, ma mère va dire quoi? Si je ne pars pas aux enseignements, on va dire quoi? Les tels vont me chercher et ils vont croire que j'ai même déjà rétrogradé. En réalité, on est déjà installé dans une sorte de sécheresse telle qu'on n'attend plus la pluie. Il n'y a plus de pluie possible pour toi, n'est-ce pas? Parce que tu crois que ça ne peut plus changer. Et du coup, c'est Dieu. Et tu dois accepter la responsabilité de tes échecs et recommencer. Tant que tu n'acceptes pas, ce sera difficile pour toi de recommencer. Tant que tu accuses Dieu, tu ne vas jamais recommencer. Tant que tu accuses les autres, tu ne vas jamais recommencer. Il y a tellement de victoires qui t'attendent à l'horizon. Mais tu dois d'abord assumer. Il y a d'abord le d'abord. C'est après le d'abord qu'il y a le ensuite. C'est après le ensuite qu'il y a le enfin. Il y a des gens qui attendent un ensuite et un enfin. Ils attendent la fin du film. On va leur dire que le prince et la princesse se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vivent heureux. Ils attendent la conclusion du film, pourtant Dieu attend qu'il commence. Tu attends la conclusion de quel film quand tu es le principal acteur et que Dieu veut que tu te mettes en scène pour commencer l'histoire de ta vie? Tu attends la conclusion de quel film quand c'est toi qui es le véritable problème? Dieu attend que tu sortes de la coquille dans laquelle tu es enfermé depuis longtemps et que tu agisses par rapport à ton avenir, par rapport à ta destinée. Mais tu es là, tu ne fais qu'accuser les autres. Si tu attends la fin du film, je ne sais pas qui va commencer le film là pour toi. Tu attendras longtemps. Accepter la responsabilité de ses échecs, c'est être prêt à poser de nouveaux jalons pour sa vie. C'est se dire, la maison est tombée parce que la fondation n'était pas bonne. Et je ne m'arrête pas. Je vais voir ce qu'il faut corriger dans la fondation et refaire la maison. Je vais faire une nouvelle fondation et je crois qu'à partir de là, la maison va tenir. Si tu n'es pas capable de reculer avant d'essayer de sauter à nouveau, ce ne sera pas possible. La maison est tombée, c'est un échec. J'ai planifié beaucoup de choses. Ça n'a pas marché. C'est un échec. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes. Ce n'est qu'à cette condition que la maison que tu es appelé à bâtir va tenir. Si tu ne refais pas la fondation et tu veux aller sur la charpente arrangée, Voir comment faire des arrangements. Le problème, c'est la fondation. Le problème, ce n'est pas la charpente. Et très souvent, nous essayons d'arranger le problème là où il n'y a pas problème. Nous voulons arranger certaines situations là où le problème ne s'est pas posé. On passe donc à côté de là où le problème s'est posé et on va arranger la charpente. Demain, la maison va tomber à nouveau parce que tu as refusé de recommencer par la fondation. Quelles sont quelques raisons pour lesquelles les gens fuient leurs responsabilités? Les chrétiens, quand on dit gens, c'est vrai que c'est les hommes en général, mais même les chrétiens, il y a d'abord la peur de découvrir ses faiblesses. J'ai peur que mes faiblesses soient évidentes. J'ai échoué. Et quand je refuse d'assumer la responsabilité de mon échec, c'est parce que je refuse que mes faiblesses paraissent et que les gens voient qu'à tel endroit ou à tel niveau de ma vie, ça ne va pas bien. Il y a la peur de ce que les autres vont découvrir, donc découvrir nos faiblesses. Et il y a aussi la honte d'affronter les autres après avoir échoué. J'ai échoué, c'est vrai. Du coup, je suis rempli de honte. Comment faire pour supporter le regard de tel? Comment faire pour supporter peut-être l'assemblée chrétienne qui m'a vu aller à pas géant vers l'atteinte de tel objectif? Peut-être on m'a même conseillé, j'ai refusé d'écouter. Et quand ça s'arrête, et qu'il n'y a plus possible de réparer quoi que ce soit, j'ai honte de revenir vers les autres avouer que je me suis entêté. Et voilà la raison de mon échec, je veux faire avec vous. On a honte. Il y a aussi la peur de perdre sa crédibilité devant les gens ou la peur d'être rejeté. On me connaît comme un tel. Je suis un robuste, je suis un costaud. Si aujourd'hui, vrai, je viens admettre que j'ai fait telle chose, les gens vont me voir comment. N'est-ce pas? C'est ça qui caractérise aussi les gens dans la maison de Dieu. L'histoire de David dans 2 Samuel 12 nous donne plutôt un enseignement formidable en ce qui concerne accepter la responsabilité de ses échecs. David a péché. On dit qu'il était roi. Ce n'est pas qu'on dit. Il était roi. En Israël, c'est lui qui était le roi. Il a envoyé les soldats au combat. Et David est resté dans la cour royale. Ça, c'est l'histoire. Et on nous dit que pendant qu'il se promenait dans la cour royale, il prenait plaisir. Certainement, il était content d'être roi. On dit qu'il a vu la femme d'Uri qui se lavait. Voilà. Et puis, du coup, la convoitise s'est saisie de lui. Il l'a envoyé chercher. Et le voilà qui commet le forfait d'adultère avec la femme d'autrui. Se rendant compte plus tard qu'elle est enceinte, il faut effacer les traces de son adultère. Et du coup, il envoie tuer son mari au front. Il faut qu'on tue le mari de... C'est qui, Bathsheba? Voilà. Il faut qu'on tue son mari. Et du coup, voilà, Uri, pour que ça efface les traces de son adultère et de son forfait. Toi-même, tu as fait un genre de choses comme ça compliquées un jour. C'est sûr. La Bible nous relate le cas de David. Mais si on entre dans la vie de chacun, on va voir un genre d'histoire compliquée. Que chacun s'est assis un jour comme ça pour effacer sa culpabilité devant un péché. Il a réfléchi sur les stratégies. Mieux quelqu'un meurt même, pourvu qu'on ne sache jamais qu'il a fait telle ou telle chose. C'est Dieu qui suscite le prophète Nathan pour l'interpeller. Et lui, il a prononcé la sentence sans savoir qu'il s'agissait de lui. Mais Dieu merci, quand il se rend compte que c'est lui que le Seigneur interpelle, on a vu l'attitude de David. David s'est repenti de son adultère. Et couplé à cet adultère, il fallait qu'il se repente de son crime. Parce que le sang d'Uri devait se verser sur sa tête. Il s'est repenti non seulement de son adultère, mais également de son crime. C'était pourtant un roi. Un roi de cette stature. Imaginez-vous qu'il accepte son forfait et qu'il descende plus bas. Et qu'il dise, ici Seigneur, en tant que roi, j'ai échoué. Il est temps que je répare ce que j'ai gâté. Il a mis les genoux au sol. Il s'est repenti. Quand il se repent, on voit David, quand il est restauré, aller de gloire en gloire dans son royaume avec le Seigneur. Ça ne pouvait pas en être autrement s'il ne se repentait pas. Il y a beaucoup de bénédictions que nous avons perdues parce que nous avons refusé d'assumer nos échecs. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont passées comme ça. parce que nous avons refusé de dire « Seigneur, j'accepte qu'ici, je suis responsable de cette situation. Je me répands et je m'engage à réparer ce que j'ai gâté. » Pendant que tu es en train de tourner, tourne bien, n'est-ce pas? Tourne, prends même les raccourcis. Je ne sais pas comment tu es en train de procéder, mais ça va te rattraper devant. David n'a pas eu honte d'avouer son forfait. David n'a pas eu peur que le peuple pouvait le rejeter. Parce que l'évidence, c'est que le peuple pouvait même le rejeter. Comment un roi peut faire ce qu'il a fait là? Et après sa restauration, même encore, Dieu peut dire, David, c'est l'homme selon mon... L'homme selon mon cœur. David, c'est l'homme selon mon cœur. Si tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu, apprends à te repentir. Apprends à assumer tes responsabilités. L'autre élément, c'est la mauvaise connaissance de Dieu et de ses promesses. Quand tu ne connais pas bien Dieu, quand tu connais mal Dieu, tu seras toujours en train de te plaindre. Tu vas verser dans les plaintes et les accusations. Plainte, accusation, plainte, accusation. Je suis comme ça parce que mon oncle qui est sorcier m'a bloqué. Si depuis je ne passe pas les concours, c'est parce que quelqu'un est assis sur ma vie. Tu vas accuser les gens. Tu ne vas pas voir les promesses de Dieu pour toi, mais ce sera que... Il y a d'ailleurs une malédiction qui pèse sur notre famille. Dans notre famille, si une fille n'a pas 30 ans, qu'elle n'espère même pas se marier. Dans notre famille, on a beaucoup de diplômes, mais on ne trouve pas le travail. Voilà nos confessions. Pourtant, Dieu a dit de nous, dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Ça veut dire qu'à un moment donné, non seulement j'ignore le Dieu que je sers, mais en même temps, j'ignore quelle est mon identité d'enfant de Dieu. Et je marche comme si on m'avait fermé les yeux et on est en train de me conduire à l'abattoir. Là où on m'égorge, j'accepte qu'on m'a égorgé. Qu'est-ce que je fais par rapport à tout ce qui se présente devant moi? Qu'est-ce que je fais par rapport aux barrières qui se dressent devant moi? Qu'est-ce que je fais par rapport aux obstacles que je rencontre sur le chemin? Je dois m'arrêter, prendre du recul et vérifier. Seigneur, quelle est ma part de responsabilité dans cette histoire? Ce ne sont pas tes ancêtres qui t'ont enfermé quelque part. Accepte la responsabilité de tes échecs et assume là où tu dois assumer. Le Seigneur va t'élever. Amen. Toutes les chaînes des enfants de Dieu sont tombées à la croix. Il n'y a plus de chaînes qui subsistent dans ta vie. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a tout payé. N'est-ce pas? À la croix, il a tout payé. Il a tout payé. Ça veut dire que je ne suis plus esclave de quoi que ce soit. Je ne suis plus prisonnier de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. L'autre élément, c'est l'orgueil. On a peur du qu'en dira-t-on. Vrai, vrai, si je vais accepter au milieu des gens que j'ai fait telle chose, les gens vont commencer à dire quoi de moi? On a le souci de préserver son ego. On veut garder son ego. Non, vraiment, ce que les gens pensent de moi, ils doivent continuer de penser ça de moi parce qu'il ne faut pas qu'on dise de moi autre chose. C'est ce qui a tué Saül. Quand il a désobéi, au lieu d'admettre qu'il a désobéi, il a plutôt trouvé les moyens de couvrir son péché, de couvrir son péché. C'est comme ça que l'échec l'a trouvé et la mort même s'en est suivie. Que préfères-tu? Que les gens disent du bien de toi alors qu'au-dedans de toi tu meurs? Est-ce que tu veux que les gens passent le temps à t'acclamer quand toi-même tu sais qu'à l'intérieur ça ne va pas? Est-ce que tu veux que les hommes continuent de t'acclamer quand toi-même tu es conscient que ce que tu as fait normalement attire la colère de Dieu sur toi? Les gens peuvent t'admettre, les gens peuvent davantage te solliciter, mais quelque part Dieu t'a déjà rejeté. Et parfois tu sais que Dieu t'a rejeté, mais tu passes le temps à jouer le jeu. Tu passes le temps à sauver les apparences. Ça ne va pas t'aider. Tu seras davantage bloqué. Et plus tu es bloqué, plus tu vas accuser les gens. L'auteur de notre texte a utilisé une image assez banale, mais assez significative pour montrer que nous devons accepter la responsabilité de nos échecs. Il a pris l'image de l'enfant qui commence à marcher. Quand l'enfant commence à marcher, il tombe, vrai ou faux? Il tombe, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe quand il est tombé? Il se relève. Généralement, il se relève seul. Est-ce qu'il a même besoin qu'on l'aide? Il se relève seul. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que là où nous sommes tombés, que nous ne demeurions pas là-bas, mais que nous puissions avoir le courage de nous relever. Et quand l'enfant tombe régulièrement, l'attitude des parents aussi contribue à lui donner de l'assurance qu'il peut faire mieux. Les parents sont toujours en train de l'encourager, n'est-ce pas? Les parents l'encouragent, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, et il finit par marcher. Autant de fois que tu es tombé, le Seigneur dit, relève-toi. Relève-toi parce que le but pour toi est trop grand. Ton avenir est trop radieux pour que tu restes là où tu es tombé. Les projets de l'Éternel pour toi sont formidables pour que tu sois dans tes échecs, en train de chercher à accuser les gens. L'enfant n'a jamais accusé ses parents d'avoir été la cause du fait qu'il est tombé. C'est lui-même qui a pris la résolution de se lever et de marcher. Et quand il tombe, il ne dit pas que « Maman, c'est toi qui m'as fait tomber ». Mais pourquoi est-ce que pour le chrétien, c'est qu'il faut chercher sur qui jeter la faute de ce qui est arrivé? L'objectif à atteindre pour les chrétiens est grand. Le Seigneur a prévu pour nous de plans merveilleux. Gare à celui qui échoue et attend que les autres viennent corriger ses erreurs. Je dis bien, gare à celui qui échoue et attend que les autres viennent corriger ses erreurs. Ils vont avancer pendant que tu es sur place. Je vais prendre le cas des mariages. On a vu des personnes rompre dans les fiançailles et l'un des partenaires va rester dans une position de deuil pendant longtemps parce qu'il m'a déçu, il m'a déçu, il m'avait promis le mariage, il m'a déçu, il m'a déçu, il m'a déçu. Pendant que le gars a trouvé son autre femme et est en train de se marier, tu es là en train d'attendre qu'il vienne te demander pardon parce qu'il t'a abandonné. Et tant qu'il ne vient pas corriger l'erreur qu'il a commise en t'abandonnant, tu ne confesses que la déception. Tu fais le deuil en attendant qu'il corrige. Il ne viendra jamais. Ce qui est bien, c'est qu'il avance. Peut-être même c'est un enfant de Dieu. Et il s'est rendu compte que Dieu n'était pas dans votre projet de mariage. Et que le Seigneur avait prévu pour lui quelqu'un d'autre. Il allait chercher celle qui était sa véritable côte. Pendant qu'il se marie, toi tu es dans le deuil, tu attends qu'il vienne assumer. Qu'il vienne assumer les blessures de ton cœur. Qu'il vienne assumer lui-même les déceptions qu'il a créées dans ton cœur. Parce que tant qu'il ne vient pas répondre de ce qu'il a fait, tu ne vas jamais te relever. Reste là, tu vas moisir sur place. Accepte que Dieu n'était pas dans votre projet. Reconnais comme lui que Dieu n'était pas dedans. Est-ce que vous avez suffisamment consulté le Seigneur? Est-ce que le Seigneur a mis son cachet dans ce projet pour qu'aujourd'hui tu estimes que non, tant que tel n'a pas réparé son erreur par rapport à telle chose, je ne vais pas bouger d'ici. Il y a aussi la pression de la chair. La chair nous presse et nous amène à prendre certaines décisions. On est pressé par la chair, la convoitise de la chair, n'est-ce pas? On veut absolument assouvir quelque chose qui est au fond de notre cœur. Et on finit par échouer. Quand on échoue, il faut absolument chercher qui va porter le chapeau de l'échec. Il y a aussi le désir de paraître. Si vous voulez paraître aux yeux des gens, vous allez échouer, mais vous n'accepterez jamais que c'est vous qui êtes la cause de votre échec. Autre chose, quelles sont les attitudes que nous devons adopter pour accepter la responsabilité de nos échecs? Il y a l'humilité. Nous devons être assez humbles pour reconnaître que c'est nous qui portons la responsabilité de nos échecs. Il y a aussi la maturité. Nous devons demander à Dieu de nous rendre matures. Seigneur, devant telle situation, donne-moi la maturité nécessaire pour reconnaître que j'ai échoué et que je dois recommencer. Il y a aussi le courage. On doit être courageux. Quel que soit ce que les gens vont dire, sois seulement courageux. Il y a le désir d'améliorer. Si tu es habité du désir d'améliorer tes échecs d'hier, alors tu sauras te relever de tes échecs. Il y a aussi l'acceptation de recommencer. Est-ce que j'accepte de recommencer? Ou alors c'est fini et c'est fini pour moi? Il y a aussi être positif. Les personnes qui sont optimistes ne s'arrêtent pas à leurs premiers échecs. Les personnes qui sont optimistes savent que pendant le parcours, il peut arriver qu'on tombe. Mais il est aussi possible de se relever et d'atteindre l'objectif visé. Il faut être capable de se comprendre et de comprendre l'autre. Si vous ne vous comprenez pas, vous n'allez jamais assumer la responsabilité de vos échecs. Si vous ne vous examinez pas vous-même, vous n'allez jamais assumer la responsabilité de vos échecs. Il faut fuir le genre d'attitude de croire qu'on a toujours raison. On n'a pas toujours raison. On n'a pas toujours raison. Il y a des gens qui n'ont jamais tort, qui n'acceptent jamais d'avoir eu tort. Et vont vous expliquer comment ça se passe pour qu'ils n'acceptent pas le tort. Tu as tort, point. Dieu dit que tu as tort. Ça ne dépend plus de toi, ça ne dépend plus de ton frère à l'heure là. Ça dépend de ce que Dieu a dit. Dieu dit que tu dois accepter que tu es responsable de ce qui est arrivé. Quelques éléments pour nous aider à prendre nos responsabilités face à nos échecs. Nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui a été à l'origine de mon échec et qui m'oblige à arranger un certain nombre de choses. Est-ce que j'étais suffisamment préparé dans ce que je me suis engagé à faire? Voilà autant de questions. Qu'est-ce que je me reproche dans la situation qui est arrivée? Et si j'avais à reprendre, est-ce que je devais utiliser les mêmes méthodes? Dieu a dit de toi, dans Jérémie 29, verset 11, « Voici, j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà les projets de Dieu pour ta vie. Il n'a pas dit que ta vie était caractérisée par les échecs. Il n'a pas dit que ta vie c'était échec sur échec. Dieu n'a pas dit ça. Mais bien aimé, que les gens apprennent ou bien prennent conscience qu'il est urgent de sortir des prisons dans lesquelles Satan les a gardés. Beaucoup de personnes sont emprisonnées dans les prisons de la culpabilité. Parfois même le monde leur a pardonné. Dieu leur a accordé le pardon par rapport à leurs échecs ou par rapport à leurs péchés. Mais c'est eux qui se sont rendus prisonniers d'eux-mêmes. Sortons de nos prisons. Il y a tellement de prisons dans lesquelles nous sommes gardés. Prison de culpabilité envers nous-mêmes. Prison parce que nous sommes dans les accusations envers les autres. Et c'est des prisons terribles. C'est des chaînes terribles qui nous tiennent et qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Les projets de bonheur dont le Seigneur parle pour s'accomplir passent parfois par des échecs. C'est par ces échecs que Dieu forge notre caractère. C'est par ces échecs que le Seigneur nous donne d'atteindre la stature parfaite de Christ. Si on n'échoue pas, on ne va pas pouvoir s'améliorer. Il faut bien qu'on échoue. Vous avez vu les enfants qui sont premiers en sixième, premier. Quand ils arrivent en terminale, ils ont 18 de moyenne. Ils partent au bac, ils échouent. Vous croyez que c'est un hasard? Dieu fait bien tout ce qu'il fait. S'il ne passe pas par là, son avenir sera la catastrophe. Il faut qu'il échoue et qu'il comprenne ce que ça veut dire l'échec. Pour pouvoir avancer ou bien pour sauter encore plus loin la prochaine fois. Dieu veut forger notre caractère. Parfois Dieu veut aussi ouvrir nos yeux en ce qui concerne nos ennemis. Quand on échoue, c'est l'occasion de commencer à réfléchir un peu. Seigneur, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'est ma responsabilité? Parfois Dieu peut dire non, ce n'est pas ta responsabilité. En réalité, ta responsabilité réside seulement au niveau où tu avais une mauvaise compagnie, tu avais des personnes que tu considérais être comme des amis, mais ce sont des ennemis parce qu'ils ne veulent pas que tu progresses. Le Seigneur peut nous ouvrir les yeux dans ce sens. Dieu peut aussi nous permettre de passer par des échecs pour nous fortifier pour des batailles plus grandes. Et faire de nous un témoignage pour les autres. Il y a des gens qui témoignent de leur vie. Quand vous les regardez, vous êtes fortifié dans votre foi. Vous êtes affermi dans votre foi. Accepte d'être un témoignage. Alléluia. Tu es prêt à accepter d'être un témoignage? Que Seigneur passe par un échec pour faire de moi un témoignage un jour. Que mon témoignage serve à relever plusieurs vies qui sont calées dans une situation. Que mon témoignage aide quelqu'un qui croyait que rien n'est plus possible. Et le Seigneur nous dit dans Proverbe 19, verset 21, si quelqu'un trouve qu'il lise pour nous. Proverbe 19, verset 21 dit, le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets, beaucoup. Si tu lui dis en un jour, il peut même te construire deux immeubles. Ça, c'est les projets de son cœur. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tu peux échouer parfois parce que ce n'est pas le dessein de l'Éternel pour ta vie. Amen. qui me relève dans mes chutes. Nous allons nous lever pour la prière. Qui combat pour moi dans mes luttes. Christ Jésus a parlé. Que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier. Jésus-Christ, Jésus a parlé. Que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ qui me relève dans mes chutes. Qui combat pour moi dans mes Jésus a parlé. Que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, c'est Jésus. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ce que tu m'as encore révélé en ce qui concerne ma vie. Merci parce que tu m'as révélé, Seigneur, que je suis moi-même responsable de mes échecs. Dis à Dieu, toutes les vérités sont en toi. Seigneur, c'est toi qui tiens les clés de ma vie. Et c'est toi qui décides de prononcer la vérité qu'il faut sur ma vie. Seigneur, merci parce que ce soir, j'ai compris que je suis moi-même responsable de mes échecs. Tu vas commencer à te repentir d'avoir accusé les gens. Tu as certainement plusieurs fois accusé les gens. Répends-toi. Tu as même accusé Dieu parfois d'avoir fermé les yeux en ce qui te concerne, de n'avoir pas eu égard à ta personne et à ta situation. Répends-toi et dis, Seigneur, je me repens. Je me repens de t'avoir plusieurs fois accusé. Je me répands d'avoir plusieurs fois accusé mon mari. Je me répands d'avoir plusieurs fois accusé mon frère. Je me répands d'avoir plusieurs fois accusé même le pasteur. Je me répands d'avoir accusé les frères. Je me répands d'avoir accusé les anciens. Je me répands d'avoir accusé les personnes que tu as établies dans ton église. Je me répands d'avoir accusé même mon voisin quelquefois. Je me répands d'avoir accusé un ami. Seigneur, tu veux que je comprenne. Tu m'as donné de comprendre que je suis moi-même responsable de mes échecs. Bien-aimé dit, Seigneur, j'accepte d'assumer la responsabilité de mes échecs. J'accepte de les assumer. Tu peux prendre quelques minutes et tu vois un peu par quoi tu es passé. Regarde un peu par quoi tu es passé. Qu'est-ce qui caractérise ta vie maintenant? Est-ce qu'il y a un échec dans lequel tu te trouves et dont tu es en train d'accuser quelqu'un? Est-ce que tu es en train de jeter la culpabilité sur quelqu'un pendant que nous sommes là? Présente cette situation à Dieu. Dis, Seigneur, je le libère. Je l'ai gardé pendant longtemps prisonnier dans mon cœur. Maintenant, je le libère. Seigneur, c'est peut-être mon cousin. Seigneur, c'est peut-être mon frère. Seigneur, j'ai mené une vie de surplace et j'ai trouvé que la cause, c'était les autres. Seigneur, je suis dans le célibat depuis longtemps et j'ai déjà cherché des personnes que je dois accuser. J'ai même déjà accusé les gens d'être responsables de cela. Seigneur, je ne trouve pas le travail. Mais au lieu de m'attendre à toi, Seigneur notre Dieu, je passe le temps à me plaindre et à accuser les autres. Dis, Seigneur, je me répands de mes plaintes. Mes plaintes sont nombreuses. Mes plaintes sont nombreuses. Mes plaintes sont nombreuses en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne ma situation. Seigneur, je me plains tous les jours. Je ne considère pas tes promesses pour ma vie, Seigneur. Mais je suis toujours en train de me plaindre que les choses ne marchent pas. Seigneur, j'ai fermé les yeux à ma propre responsabilité. J'ai refusé de voir que moi-même j'étais coupable. J'ai refusé de considérer qu'il s'agissait de moi et non des autres. Dis, Seigneur, il s'agit de moi. Seigneur, il s'agit de moi. Même s'ils ont été pour quelque chose dans ce qui m'arrive, tu voulais que je regarde à toi. Tu ne voulais pas que je regarde à l'attitude d'un homme. Tu ne voulais pas que je regarde, Seigneur, aux paroles que quelqu'un a un jour prononcées sur ma vie. Seigneur, tu voulais que je regarde à toi. dis, Seigneur, ce soir, je prends l'engagement de sortir de toutes les prisons de culpabilité dans lesquelles j'ai été enfermé. Seigneur, j'ai été enfermé dans beaucoup de prisons. J'ai été moi-même la cause de l'esclavage dans lequel je me trouve. Seigneur, j'ai même enfermé des personnes dans des prisons parce que j'estime, Seigneur, que c'est eux qui ont volé ma bénédiction. J'estime que c'est eux qui sont la cause de mes problèmes. J'estime que c'est eux qui sont les responsables de mes problèmes. Seigneur, je les libère. Je les libère. Je les libère de toutes les prisons dans lesquelles je les ai fermées. Et je déclare moi-même que je sors des prisons dans lesquelles je me suis enfermé. Seigneur, tu m'as dit ce soir que mon avenir est grand. Seigneur, tu m'as dit ce soir que tu as formé pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Je crois en l'accomplissement de ces promesses pour ma vie. Et je voudrais revêtir l'attitude de David, qui sait se repentir quand il a mal agi. Oh Seigneur, imprime ce caractère en moi. Seigneur, imprime ce caractère en moi, afin que je sache, Seigneur, me repentir et prendre mon envol. Seigneur, donne-moi, oh Dieu, de ne pas chercher à arranger les à côté du problème, mais d'aller dans les profondeurs de ce qui fait problème pour réparer les choses dès la base. Seigneur, ce n'est qu'ainsi que ma vie sera bâtie. Ce n'est qu'ainsi que mon avenir sera bâti. Dis à Dieu, Seigneur, je reconnais que pendant que j'accuse les gens, les portes se ferment devant moi. Dis, Seigneur, je sais que beaucoup de portes se sont fermées devant moi parce que j'ai passé le temps à accuser les gens. Je sais que je suis passé à côté de beaucoup de bénédictions parce que j'ai passé le temps à t'accuser et à accuser les autres. Mais Seigneur, merci parce que ce soir, tu ouvres les portes de mes bénédictions. Merci parce que ce soir, mes chaînes sont brisées au nom de Jésus. Merci parce que ce soir, tout ce qui me tenait captif, m'empêchant, ô Éternel, de saisir tes grâces pour ma vie, Seigneur, tombe au nom de Jésus. Dis, Seigneur, merci pour les barrières qui sont renversées. Merci pour les obstacles que tu balais sur mon chemin. Merci parce que s'il s'agit même des hommes ou de n'importe quoi, Seigneur, tu les balais sur mon chemin et j'avance au nom de Jésus. Dis, Seigneur, j'accepte de recommencer. Même si c'est difficile, Seigneur, ça peut paraître difficile dans certaines situations. Mais Seigneur, j'accepte de recommencer. J'accepte de recommencer. Dis, Seigneur, donne-moi le courage nécessaire. Donne-moi l'humilité qu'il faut. Donne-moi, Seigneur, notre Dieu, de savoir perdre, ô Éternel, devant les gens, l'image qu'ils ont de moi, pourvu que toi, tu me considères. Dis, Seigneur, je veux pouvoir tout recommencer. Accorde-moi cette grâce. Il est question que je répare depuis les profondeurs. Seigneur, je veux réparer. Mais je sais que c'est avec toi que je vais réparer. Seigneur, notre Dieu, je sais que tu m'accordes la grâce de tout recommencer, de partir de mes échecs pour tirer la bonne leçon qu'il faut. Seigneur, afin que, ô Dieu, tu puisses laisser tes promesses accomplies dans ma vie, au nom de Jésus.
Et connais mon cœur.
Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui as parlé à nos cœurs ce soir. Merci parce que nos cœurs ont été touchés. Seigneur, ce n'est pas de l'eau versée sur le dos du canard. En réalité, cette eau que tu as versée sur nous est allée jusque dans les profondeurs de nos cœurs pour tout transformer. Merci parce que tu as balayé toute forme d'incrédulité dans nos cœurs et tu nous accordes la grâce de réparer. De réparer, quel que soit ce que les gens diront de nous. Seigneur, de réparer, quel que soit le regard que les gens vont désormais poser sur nous. Seigneur, d'accepter la responsabilité de nos échecs, même si les gens vont nous rejeter, même si nous n'aurons plus la même considération à leurs yeux. Seigneur, l'essentiel pour nous, c'est ce que tu penses de nous. Ce n'est pas ce que les gens peuvent penser de nous. Seigneur, c'est peut-être difficile dans certains, pour certaines personnes, en fonction des situations par lesquelles elles sont passées jusque-là. Mais nous sommes confiants, Seigneur, que ton esprit est à l'œuvre pour rendre ton œuvre parfaite dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous acceptons la responsabilité de nos échecs et nous prenons l'engagement de tout recommencer avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie.